Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Cube Radio.
Cube. Cube Radio. Le retour de Mario Dumont.
Deux heures d'info. De 15 à 17.
Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
Mario Dumont et Vincent Desureau.
Le retour de Mario Dumont.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h31. On vous retrouve pour passer la prochaine heure et demie ensemble. Vous résumez cette journée, ma foi, un peu folle en actualité. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
C'est comme si il y a beaucoup de nouvelles encore liées à la COVID, évidemment, puis à ses conséquences, puis aux reprises d'activité. Mais il y a quand même un paquet d'autres nouvelles. Là. C'est il n'y aurait pas de COVID aujourd'hui que ce serait déjà une grosse journée en actualité.
Oui, bon, on peut dire un peu, c'est peut-être la première fois qu'on n'est pas en émission vraiment spéciale, uniquement COVID ou presque, la mi-mars. Là, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'actualité qui est tombée dans les dernières minutes.
Et notamment dans ce qu'on attend dans les prochaines minutes, il y a ce point de presse de Donald Trump, majeur sur deux sujets. Il doit annoncer des mesures drastiques par rapport à la Chine. Certains médias américains pensent qu'il pourrait annoncer l'expulsion d'étudiants chinois, mais il y a 300 quelques mille étudiants chinois dans l'ensemble des universités et collèges américains. Est-ce qu'on peut les expulser tous? Ça n'a comme pas de bon sens. Et aussi, ben, il va sûrement réagir à ce qui se passe à Minneapolis. Est-ce qu'il va calmer le jeu, jeter l'huile sur le feu?
C'est ça, parce qu'à date, ça a plus été l'inverse, du moins dans les dernières heures.
Non, mais ben, c'est ça, hier, il y avait quand même, il y a un moment hier, il avait pris ça au sérieux.
Il avait demandé une enquête rapide.
Mais là, des tweets. Mais là, le tweet où il y a ni plus ni moins dit que s'il y a d'autres émeutes, on va tirer dans le tas, c'est comme, wow.
When looting starts, shooting starts. Ouais. Donc, qui était
shooting,
d'ailleurs une phrase utilisée dans.
Fusillade.
Une phrase utilisée par un policier dans une autre histoire raciale qui remonte plus loin dans l'histoire américaine. Mais bon, peut-être pour te dire, parce qu'il y a quand même eu des développements importants dans les dernières heures qui concernent cette histoire qui est centrale présentement aux États-Unis. Le policier qui est mis en cause dans ce dossier-là du décès de George Floyd a été finalement arrêté et sera accusé de meurtre. Je vous laisse entendre le procureur Mike Freeman du comté qui l'a annoncé, a fait confirmer il y a quelques minutes. On peut l'écouter.
I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter.
Alors, on parle d'un meurtre au troisième degré, mais évidemment, ça, c'est temporaire, possiblement. On avait besoin, et on dit d'ailleurs, cette enquête-là s'est faite dans un temps record. Plusieurs réclamaient une arrestation rapide, mais les policiers doivent quand même accumuler de la preuve. On dit qu'on a fait ça vraiment dans un temps record, mais qu'on pourra ensuite aggraver les chefs d'accusation au besoin.
Mais j'avoue que il faut se pincer pour y croire, là. Tu pars d'un type qui paye avec un faux 20$. C'est sûrement pas, je veux dire... C'est malheureux, la fraude, les faux monnayeurs, c'est les commerçants se font payer puis ils n'ont pas leur argent. On comprend que c'est grave. Là,
je connais des gens dans ma famille qui ont déjà malheureusement eu un faux billet dans l'eau.
Ça, c'est la première question. Tu peux pas présumer que celui qui possède, qui a entre ses mains un faux billet, est lui-même un fraudeur. Ça se peut que ce soit le cas. Mais tu peux pas le présumer. Donc peut-être même qu'il est totalement innocent. Mais mettons que c'est un fraudeur. Faut que tu l'arrêtes à ce titre. Faut que tu le fasses payer devant la société à ce titre. Mais du point de vue de la force physique, un fraudeur n'est pas une menace, tu comprends? Il prendra pas à rue, il va pas tuer le monde, il va pas aller...
Il a pas un AK-47 dans les mains.
Il va pas aller assassiner la madame qui sort de la pharmacie, qui sont dans le dentifrice, tu comprends? La rue n'est pas en danger. Donc, ça requiert pas une intervention d'une telle force, arrêter un fraudeur. Mettons qu'il y en était un, mais on est même pas sûr, qui a pas refusé d'obtempérer. Mais là, tu dis, OK, t'as une ville, un État, et là, ça pourrait se répercuter sur d'autres villes. Tu sais, t'es à feu et à sang, des saccages... Quelle bavure policière. Puis là, la cerise sur le sundae, c'est un journaliste arrêté pendant qu'il diffuse.
Ça, oui, journaliste noir, qui d'ailleurs est arrêté. CNN a fait une publication, parce que c'est un journaliste de CNN, arrêté en plein reportage en direct, ainsi que ses collègues de travail. Donc, tôt ce matin, alors qu'on couvrait évidemment la scène, là, un peu après les manifestations.
Puis encore là, tu dis, ils sont fous. Le type, il leur dit, regarde, dites-nous où aller se placer, on va aller se placer. Et d'ailleurs, la police d'État a dit, on pouvait pas savoir, fallait l'arrêter pour vérifier si c'était un journaliste. Écoute, il y a un micro dans les mains face à une caméra, il y a un camion CNN et diffuse en direct.
C'est assez clair. Pour avoir couvert des manifestations, beaucoup, les journalistes, on se fait rarement écœurer. J'ai déjà été poussé là, par des boucliers, mais dès que tu montes une passe média, les policiers, généralement, te laissent
tranquille. À la limite, ils vont te pousser, ils vont te dire, regarde, tu peux pas rester là, va-t'en à gauche, va-t'en à droite, va-t'en en avant, va-t'en en arrière, mais
on t'arrête pas. D'ailleurs, ils ont été, toute l'équipe, relâchée sans accusation là, par après.
Non, CNN... sauf que l'image live, là, l'image en direct, imagines-tu le...
qu'on a gardé. Ridicule. Ils ont d'ailleurs bien placé la caméra pour qu'on continue quand même de voir un peu la scène. D'ailleurs, CNN a tweeté plus tard dans la journée que leur journaliste qui couvrait la manifestation était arrêté, mais que le policier là, derrière tout ça, lui, ne l'était pas. Évidemment, ça a changé dans le courant de la journée. D'ailleurs, information quand même importante qui est sortie également aujourd'hui, c'est que le policier et George Floyd se connaissaient puisqu'ils ont travaillé ensemble dans un resto-bar comme videur, en quelque sorte, là, au El Nuevo Rodeo. Alors, deux hommes qui se connaissaient, ce qui rajoute quand même un élément particulier à cette histoire. Donc, on verra le fond de l'histoire. Mmh. Alors qu'on est à une troisième, nuit d'affrontement et on se prépare au pire cette nuit. Entre autres, la Garde nationale qui a été envoyée. Alors, de nombreux, on parle de 500 militaires envoyés, des hélicoptères, même des drones qui vont
se surveiller. Mais après l'arrestation, il faudrait qu'il y ait des leaders, il faudrait qu'il y ait certains messages de paix parce que il y a quand même quelque chose d'absurde à détruire sa propre ville. C'est-à-dire que, et à présumer, là, qu'une fois que tu détruis des dizaines de commerces, de bâtiments, etc., tu peux pas savoir. Probablement que plein de ces commerçants-là étaient 100% d'accord, militants contre cet acte policier-là.
Parce que plusieurs disent là-bas, c'est écoutez, des manifestations pacifiques, on en a fait 50, et là, à un moment donné, il faut.
Faut tout casser.
Alors, c'est pour ça qu'on. C'est difficile. Il faut dire que la majorité du temps, c'est pacifique, là, mais ça a mal viré pendant le courant de nuit.
Incendie,
on a vu le poste de police, qui a été évacué. Alors, vraiment, une histoire particulière, et on attend toujours Donald Trump. Ce qu'il en rajoutera, on sait que sur son tweet là, qui invitait à tirer sur les... ou du moins qui sous-entendait là, que les tirs allaient commencer avec le pillage, Twitter l'a signalé comme étant l'apologie de la violence et ça a amené Donald Trump à se faire une série de tweets anti-Twitter aujourd'hui. Alors, une situation un peu particulière.
Revenons aux nouvelles de la COVID. Donc, le bilan au Québec, tout est encore, en tout cas, au niveau hospitalisation, tout est encore un peu à la baisse. Pas vite, mais bon, quand même.
Ben, pas vite, peut-être à l'exception des hospitalisations aujourd'hui qui baissent quand même d'un coup.
Ouais.
Moins 66 hospitalisations. Donc, on est à 1265. Et ça, c'est une tendance.
C'est presque 300 de moins depuis dimanche passé, je pense.
Hein. Oui, une tendance qui est... vraiment qui est soutenu là, de baisse des hospitalisations. 530 cas confirmés aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est en baisse. Par contre, toujours un taux de décès assez élevé avec 61 nouveaux décès. 6 personnes de moins aux soins intensifs. C'est le bilan qu'on a aujourd'hui.
Également, les soins intensifs, par contre, j'avoue qu'on a déjà parlé de ça ensemble, mais je serais vraiment très curieux d'avoir le flow. C'est-à-dire... quand on nous dit aux soins intensifs, moins 6, puis on nous dit, mettons, hier, il y avait 182, aujourd'hui, il y a 176 dans le total des soins intensifs au Québec, ça fait moins 6. Mais dire, est-ce qu'il y en a, mettons, là, sur les 182 d'hier, il y en a 16 qui sont morts, 10 nouveaux qui sont entrés, tu vois, quel est le flot des gens qui sortent guéris, des gens qui sortent décédés, des soins intensifs, combien rentrent? Parce que maintenant, on ne sait plus, là, parce que je suis quand même impressionné de les gens qui commencent à entrer en détresse respiratoire, là. Mais il y en a qui restent aux soins intensifs, ça n'a pas de bon sens comment ils restent longtemps.
Des semaines, des trois.
En fait, il y en a. J'ai vu des cas qui étaient restés 4 semaines aux soins intensifs rétablis. Puis il y en a un des décès, c'est un préposé. Je pense que c'est un préposé aux bénéficiaires qui est décédé. Il était aux soins intensifs depuis près de 5 semaines. Donc, il était intubé aux soins intensifs depuis 5 semaines quand ils l'ont perdu. Là. Donc, des gens aux soins. Donc, on ne sait plus trop aux soins intensifs, des gens qui sont là très longtemps, qui décèdent, qui guérit. combien de nouveaux entrent aux soins intensifs? Je serais quand même curieux d'avoir ces données-là.
C'est juste de dire, sur la Côte-Nord, premier cas de la COVID dans un CHSLD, malheureusement, ce qu'a appris TVA Nouvelle aujourd'hui, un employé qui travaille à Sept-Îles, le 6 de la Côte-Nord, qui n'a pas précisé s'il travaillait à la résistance Gustave Gaudreau ou à la résistance Urgel Pelletier. Il y en a deux. Alors, une cellule de crise, on gère ça, mais une nouvelle inquiétante pour la région de la Côte-Nord.
Puisqu'on parle d'un cas, il y a une province qui avait plus de cas, qui avait zéro cas, zéro décès depuis des jours et des jours. Le nouveau Brunswick et qui s'en vantait, qui s'en faisait une fierté. Mais là, eux autres, c'est toute une explosion de cas à cause de, c'est bizarre, mais à cause d'un docteur.
Oui, et ça montre quand même les dangers de, des événements comme ça, de super contagion, la multiplication. Un médecin qui a exposé au moins 150 personnes à la COVID-19 dans la région de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Il a été suspendu de ses fonctions. C'est ce que le président directeur général du réseau de la santé Vitalité, le réseau qui s'occupe des services en français, a confirmé aujourd'hui. Lui qui a contracté le virus au Québec, mais qui a continué d'offrir des soins au Nouveau-Brunswick sans suivre de période de quarantaine. Alors, on dit que parmi les 150 personnes, 50 sont des travailleurs de l'hôpital de la région. Alors, évidemment, on fait des tests de dépistage.
Une centaine d'autres dans la communauté. Ouais.
Exactement. Alors, une nouvelle particulière qui montre quand même que quand tu es dans le personnel de la santé, tu dois encore plus respecter les règles du gouvernement.
Ce qui est à voir, c'est que le danger de ces éclosions-là, c'est que là, ces 150-là, combien d'entre eux, t'es dans une province où plus personne n'a peur de la maladie, il n'y a plus de cas, ou à peu près plus de cas, donc combien d'entre eux ont participé eux-mêmes à des événements, des rencontres, etc., c'est le risque de redéclencher une nouvelle propagation. Monsieur Legault, qui est dans sa propre région aujourd'hui, et qu'il représente à titre de député de la Naudière.
Oui, d'ailleurs, il y aura point de presse à 15h, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de point de presse à 13h, normalement, avec tout le monde. C'était annulé, ou ben, pas annulé, mais il n'y en avait pas aujourd'hui. On se tournait davantage vers la région de la Naudière, alors que à la fois M. Legault et Mme McCann, la ministre de la Santé, étaient en visite. C'est quand même la quatrième région la plus touchée, là, quand même une zone chaude du Québec avec Joliette. C'est 3900 cas dans la Naudière, 182 décès en date d'aujourd'hui. Donc après Montréal, Laval et la Montérégie. Alors on donnera des détails sur la gestion là, plus locale des éclosions dans le secteur de la Naudière tantôt. Et il y aura assurément des réactions et des questions posées à François Legault sur...
Mais sur l'attaque de la directrice de la santé publique de Montréal, quand même, qui a attaqué le gouvernement sur plusieurs fronts. Là, que la crise a été gérée à Québec alors qu'ils auraient dû la gérer à partir de Montréal. Qu'en santé publique, Gaétan Barrette avait coupé les libéraux avant, mais que la CAQ a continué à couper. Bon, elle attaque le docteur Arruda. Lui aussi, là, il aurait dû participer à gérer la crise à Montréal. Le docteur Arruda renvoie ça à François Legault en disant « Mais là, le gouvernement était à Québec. » Embarrassant, je trouve, pour M. Legault, là, tout ça. Là.
Effectivement, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir sa réaction à cette entrevue de Dr Mylène Drouin à la presse aujourd'hui, où elle explique que la métropole ayant été frappée de plein fouet, là, étant centrale dans toute cette crise, on aurait dû gérer la crise probablement à partir de Montréal plutôt que Québec, mais contentement aussi sur les compressions budgétaires. Elle en avait déjà fait part dans un point de presse alors que François Legault était juste à côté des ressources financières qui avaient été coupées de l'ordre de 30%. Et également l'organigramme, là, puis on en avait quand même parlé là, à quel point c'est complexe le système de la santé, les CIS, les CIUS, et le fait que la direction régionale de santé public n'a pas l'autorité nécessaire pour pouvoir agir rapidement sur les CIUS des établissements de santé. M. Arruda a été questionné là-dessus alors qu'il faisait une annonce là, concernant autre chose cet après-midi et on sentait quand même un certain malaise. Là. Lui, il explique que les coupables, les raisons, on aura tout un temps pour analyser tout ça, qu'effectivement, Dr Drouin lui avait demandé qu'on devrait se voir un petit peu plus physiquement là, donc à Montréal, mais que la crise était quand même gérée de Québec et qu'on fait ce qu'on peut, que c'était du jamais vu. Alors, l'explique.
Le docteur a dit que ça ne dérangeait pas, que c'était correct qu'elle s'exprime, mais dans une réponse de 9 minutes à peu près.
Oui, c'est pour ça que je ne fais pas entendre un extrait, c'est dur de saisir un bout là, bien précis.
C'est une des réponses les plus longues. La longueur de la réponse traduit le malaise, plus que n'importe quel élément de contenu. Là.
Tout à fait. Ouais. Alors, on verra si M. Legault aura une réponse plus synthétisée tantôt.
À Ottawa, chose étonnante, il y a M. Trudeau qui a annoncé de l'argent.
Oui, Mario, il l'a annoncé. Quelques millions aujourd'hui quand même.
Mais moins d'un milliard.
Oui, écoute, 600...
Mais c'est vendredi, hein?
C'est vendredi. 650 millions quand même.
Les deux tiers d'un milliard.
Je me souviens que la dernière fois qu'il avait annoncé ça en bas d'un milliard, mais il en restait comme... Un autre 40 a annoncé après, qui était la subvention salariale qui était extensionnée. Mais oui, M. Trudeau qui annonce 650 millions de dollars pour les communautés autochtones, particulièrement dans les soins de santé, donc un 285 millions. Je vous laisse l'entendre sur où ira cet argent pour les soins de santé.
C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour trouver des solutions à long terme axées sur les communautés en matière de santé.
S'ajoute à ça, donc, programme d'aide aux revenus pour aider...
C'est des fonds qui va être disponible, qu'il a trouvé, ça, ou ça va être emprunté, tu penses?
Je pense que... Je pense pas qu'il reste grand-chose dans la caisse, là.
Ouais.
Mais écoute...
Mais tu sais, emprunter 260 milliards ou 261, là...
C'est un peu ça,
sur
là.
Ton sommeil, là.
Effectivement, ça changera pas grand-chose. Également, quand même, on avait déjà annoncé un 10 millions pour refuge des abris pour femmes et enfants autochtones. On ajoute 85 millions de dollars. Alors, c'est fait partie de cette annonce aujourd'hui. Également, retour sur la réunion des premiers ministres hier, où on a parlé de plusieurs points, là, les rapports dans des forces armées sur les CHSLD, des programmes de détection et d'isolation du virus, et également le 10 jours de congés payés.
Et là, qu'est-ce qui pourrait l'aider à débloquer? Bon. Parce que les provinces n'en veulent pas tellement.
Ben, il dit que certains premiers ministres avaient une inquiétude par rapport aux compagnies. Ils ne voulaient pas en rajouter sur le fardeau des compagnies qui en arrachent déjà. Mais M. Trudeau...
Mais qui a de l'argent de l'os qui pourrait payer ça, là?
Ben, le gouvernement fédéral va s'en charger, Mario. Alors,
ça pourrait prendre le plus gros de la facture.
M. Trudeau a dit qu'il allait prendre une grande partie de la facture. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Papa va payer pour tout ça. Rappelle que...
C'est des fonds qui sont... Il y a un surplus quelque part qu'on n'avait pas, pas prévu.
Il n'y en a plus de fonds. Il n'y en a plus de fonds non plus. Justement, il n'y a pas de fonds. Les grands navires de croisière, et là, bon, confirmé l'annonce du ministre des Transports. Alors, les grands navires de croisière bannis au Canada jusqu'au 31 octobre. Et sur les billets d'avion... Beaucoup de questions. Ça a été difficile d'avoir une réponse de M. Trudeau là-dessus. Ça a pris deux journalistes pour...
Dont la deuxième qui commence sa question, en fait. Mais je repose la question de ma collègue Michel, parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure.
Oui, et c'est après que notre collègue Michel Lamarche a dit « Vous n'avez pas répondu, mais ça a pris trois fois. » Puis on n'a pas eu vraiment de réponse, mais la question étant, parce que lorsqu'on pose la question à M. Trudeau, pourquoi vous ne demandez pas qu'il y ait un remboursement aux Canadiens? Il répond « Notre priorité, ce sont les Canadiens, mais justement, les Canadiens qui, dans certains cas, des familles qui auraient bien besoin de se faire rembourser le billet, qui n'utiliseront
pas. » Mais à un moment donné, il a quand même dit une phrase, il faut tellement décoder, il dit tellement peu de choses, mais il a dit qu'il faut que les compagnies aériennes survivent, soient encore là après. Là, ça, c'est la seule chose qu'on peut décoder, que il craint que si on a les forces à rembourser, il y en a qui passeront pas à travers et seront plus là après.
Mais je vais te faire écouter comme la troisième reprise, là, où il a donné un petit peu plus de contenu. On lui a demandé, est-ce que les Canadiens méritent pas donc de recevoir cet argent-là? Écoutons Justin Trudeau.
Non, au contraire, je comprends qu'il y ait des Canadiens qui ont épargné longtemps pour acheter des billets d'avion qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder ce que d'autres compagnies aériennes font à travers le monde et nous allons avoir plus à dire dans les semaines à venir.
Bon, les familles qui ont acheté des billets qui leur sont très chers,
oui,
mais qui ne veulent plus rien pour l'instant.
On va parler tout de suite de ce projet. On sent que ça s'en vient, puis je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression que on nous avait dit début juin, là. Puis le début juin, mais c'est lundi, là. On est vendredi le 29 mai, puis quand on va se reparler lundi en onde, on va être rendu au mois de juin. On nous avait dit que ce sera à l'étude, là, ces applications de traçage. Donc, des applications que chacun devrait installer sur son cellulaire. Le but étant que si on détecte que vous avez, si on teste que vous avez la COVID, on pourra voir de qui vous vous êtes approché au cours des 4-5 derniers jours. Et donc, le travail de la santé publique de retraçage des personnes potentiellement infectées pour que ces personnes se mettent en quarantaine, aillent se faire tester pour stopper la propagation, le travail devient beaucoup plus facile. La question, évidemment, c'est une question de confidentialité, de protection des données. Ça inquiète beaucoup de gens. Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, président directeur général de Vigitech, spécialisé en informatique judiciaire, est avec nous. Bonjour, M. Laurier.
Bonjour, Mario.
Vous faites partie des inquiets, là, de ça.
Ah, plus qu'inquiet.
Plus qu'inquiet.
Ben moi, je pense qu'on a un canon de 20 pouces pour tuer une mouche, dans le sens où la meilleure application au monde va toujours être aussi faible sur le support sur lequel on va la déposer. Il y a deux choses dans les applications de traçage. Il y a l'application et il y a le module qui va contenir l'application. Et dans un monde où 95% de la population, c'est des technoploucs, on essaye de mettre le gouvernement...
Des technoploucs, ça m'inclut, ça, là.
Oh oui, ben il y a personne qui vient au monde avec un cellulaire, on s'entend. On est habitué des consoles de jeu, on a des outils dans les mains, des téléphones cellulaires qui ont plus de force que des ordinateurs qui ont mis des fusées Apollo dans les airs, qui ont plus de puissance de calcul. C'est qu'au niveau de la technologie, on peut avoir la meilleure application, et je suis pas contre l'application, je le dis depuis le début. Moi, si le gouvernement veut imposer à ses citoyens une application de traçage ou veut mettre de l'avant l'application de traçage, aucun problème. Mettez ça sur un petit bracelet avec qui a un module Bluetooth et un module GPS, et ça va être totalement anonyme avec un numéro de série. Mais venez pas mettre ça sur l'appareil du citoyen, parce que l'appareil du citoyen est ultra vulnérable.
Ouais.
C'est l'enjeu. La vulnérabilité, elle est dans plusieurs, puis combien de dossiers que je fais de femmes espionnées, de gens complètement hackés qui deviennent complètement fous parce qu'ils se sentent suivis.
Parce que donc votre crainte, c'est pas nécessairement Big Brother, l'État prend toutes les données pour nous surveiller. C'est que chaque individu se retrouve avec une espèce d'application qu'il trace, et si lui se fait hacker par quelqu'un qui veut du mal, l'individu est vulnérable.
Ben en fait, c'est que la première chose, vous êtes obligé de mettre d'autoriser l'API. L'API étant une interface entre la machine et l'application qui va être installée. Vous ouvrez déjà une première porte. Là,
mais ça, on le fait déjà. Là, je veux dire, on le fait avec la météo. Non, dès qu'on dit qu'on veut savoir la météo où on est, toutes sortes de patentes de même, là, non, on se prend un peu à risque. Tout le monde le fait. Non?
Ben non, pas dans le même sens, parce que là, vous ouvrez une porte. L'API ouvre une porte vraiment exceptionnelle à votre téléphone, à l'appareil Bluetooth, là, vous ouvrez une porte vraiment exceptionnelle. Vous êtes directement sur l'antenne Bluetooth qui, elle, est vulnérable à des attaques informatiques. C'est connu, c'est documenté, il en sort à tous les jours. C'est pas une technologie qui est faite. Puis là, vous ramassez des clés.
OK, donc pour que les deux cellulaires, mettons que vous et moi, on se croise, là, par hasard, quelque part, puis là, moi, j'ai la COVID, puis là, on dit, hey, Paul Laurier est dans la liste des gens qui ont croisé Mario Dumont hier. Et là, donc, on vous avertit, là, on vous recevez un message vite en disant, il va te faire tester, surveille-toi. Tu as été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, mais pour que nos deux cellulaires se soient parlé, c'est par Bluetooth. C'est l'application va utiliser Bluetooth pour retracer qu'on s'est croisé dans une épicerie ou qu'on s'est croisé dans un bureau, quelque chose comme ça.
Ben, qu'il y a eu un contact, puis que là, il y a eu une proximité parce que le Bluetooth a à peu près un rayon efficace d'une dizaine de mètres. Puis encore là, 10 mètres, c'est pas prouvé. Là, on parle à peu près 3-4 mètres. Donc, si vous êtes exposé, puis là, c'est déparamétré dans les applications, si vous êtes exposé pendant... Mais c'est pas parce que deux téléphones sont un proche de l'autre que vous êtes nécessairement...
À risque, mais ça donne un indice quand même, là, c'est ça.
Oui, si je mets deux sacoches une à côté de l'autre dans un hall d'entrée, le magasin dit « Laissez vos sacoches-là, je mets la sacoche-là. » Les deux téléphones vont se parler pendant une demi-heure. Ça va créer des faux positifs qui sont...
Oui, je comprends.
Il y a plein de cas de figure, mais moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des applications pour qu'on aide le gouvernement à éradiquer le COVID, mais mettez ça sur un bidule qui est complètement séparé parce que il y a... Puis c'est la loi sur la protection des données au Canada, on s'entend qu'on n'est pas les premiers. On vient de juger Google dans le scandale Cambridge Analytica pour une infraction qui a eu lieu en 2012.
Mais quand on nous dit qu'on va, je vais essayer de dire le mot, tout le monde le rate, là, mais anonymiser, donc rendre anonyme tout ça, c'est-à-dire que l'application va faire le traçage mais retiendra pas les noms, ça vous dit quoi ça? Comme, parce que ça semble être ça la grosse sécurité que nous promettent les gouvernements.
Ben en fait, la sécurité, vous émettez des clés, une clé publique, une clé privée avec des serveurs qui sont pas contrôlés. Les données, même s'ils sont anonymes, à quelque part, vous avez la trace d'un cellulaire, vous avez un numéro de série, vous avez quelque chose qui va identifier votre cellulaire. Hein. Vous êtes obligé de rentrer, vous êtes obligé de mettre l'application en fonction d'un appareil. Donc, c'est pas si anonyme que ça. Si on veut vous retracer, il faut être capable de vous renvoyer un signal, de dire que vous avez été en contact avec quelqu'un qui était... Donc, à quelque part. Et puis là, je regardais les gens chez Mila. Qui va gérer le serveur? C'est des gens qui ont eu des enquêtes de sécurité, parce que faut se rappeler, là, Desjardins, c'est une banque, c'était sécuritaire. Tous les utilisateurs ont leurs données personnelles sur le web.
Ouais.
Il y a des portes. La sécurité, il n'y a rien qui est sécuritaire au niveau informatique. C'est une question de temps avant que ça soit percé. Puis les compagnies font ce qu'on appelle des patchs, font des corrections de mise à jour de logiciels constamment. Là, on est sur une application. Ça fait 6 mois qu'on est en développement. On ne l'a pas testé vraiment. Chaque pays l'utilise un peu. Des géants comme Google et Apple ouvrent des portes sur nos appareils cellulaires. Moi, je pense qu'on va beaucoup trop vite. Oui, on va la combattre, la COVID. Pas de problème avec ça, mais prenez un bidule, ça coûte à peu près 50 $ à fabriquer, un module GPS, un module Bluetooth, vous mettez ça autour de votre poignet, et puis vous le branchez sur votre ordinateur, si arrive, vous allez retracer tous les gens avec qui vous avez été en contact par le numéro de série, puis par la manipulation de l'utilisateur.
Si mais c'est beaucoup plus compliqué parce que le sel, les gens l'ont déjà tout dans leur poche. Là, on parle de créer un bracelet, d'en fabriquer des millions, d'y distribuer, de convaincre les gens de le porter, etc. Là.
Ben, si on parle, mettons, de population vulnérable à Montréal, là, dans Montréal-Nord, combien de gens ont des cellulaires? Si on n'est pas capable de se payer des masques, est-ce qu'on est capable de se payer des cellulaires? Et c'est les zones chaudes. On parle de zones chaudes. On parle de vouloir enrayer la propagation du virus dans des zones chaudes. Fait que c'est pas tout le monde qui a des cellulaires, c'est pas tout le monde. Android a à peu près 5-6 saveurs présentement de firmware. Là, j'ai pas on appelle ça des saveurs, le marshmallow, caramel, KitKat, whatever. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes cellulaires qui sont updatables, qui sont en comment je vous dirais ça, là, qui sont prêts à recevoir cette application-là. Fait que oui, l'idée de retracer, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais pas sur un cellulaire, pas sur mon cellulaire personnel. Moi, je suis en train de retomber un vieux BlackBerry, un système complètement fermé. C'est pas question. J'update pas mon cellulaire chez Apple parce qu'on me demande d'ouvrir la porte. Je veux pas l'ouvrir, cette porte-là, parce que c'est bien au Canada, mais si je vais dans des pays étrangers, puis on le sait, il y a des guerres, technologiques sous la chambre. Est-ce qu'on garantit que les Chinois, les Russes, les Américains, les Israéliens, les Français, tous ceux qui sont en guerre technologique sur le terrain que les gens voient pas, vont pas utiliser cette porte-là pour après ça venir encore plus nous espionner ou nous voler des secrets ou voler des communications? L'enjeu est là. Moi, j'ai pas de problème de bidule, mais mettez-les sur un bidule séparé, pas sur le mien. Parce que la faille,
ouais,
elle est là.
Bien.
La faille, c'est qu'on ouvre une porte pour mettre une application. L'application en soi de s'installer. On a besoin de cette porte-là pour être anonyme.
Ouais.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'on est beaucoup trop rapide dans le déploiement de cette technologie.
On va surveiller comment ça évolue dans les semaines à venir. Paul Laurier, merci.
Bonne journée. Bon week-end.
Une énorme nouvelle qui est tombée, Vincent, pendant qu'on parlait à M. Laurier.
Oui, concernant quelque chose qui était, ma foi, très, très attendu, là, concernant les salons de coiffure.
Qui ouvrent hors Montréal lundi.
Donc exactement.
Dans 3 jours. Puis là, à Montréal, on espérait le 8, donc le lundi, 7 jours plus tard, mais...
Faudra attendre un petit peu plus, mais pas beaucoup. 15 juin. C'est ce que le gouvernement du Québec vient d'annoncer. Alors, coiffeurs, barbiers, les tatoueurs, les esthéticiennes un peu partout. Donc, Grand Montréal, MRC de Joliette vont pouvoir ouvrir à partir du 15 juin. Alors que les autres, effectivement, c'est dès lundi.
Et il y a le président Trump qui est en conférence de presse. Évidemment, là, je ne l'écoute pas parce que je suis en émission, mais ce que je vois des titres et des bandeaux sur tous les grands réseaux, il a l'air à s'en donner à cœur joie contre la Chine et contre l'Organisation mondiale de la santé.
Ah oui, écoute, c'est le président qui est virulent là, envers la Chine. D'ailleurs, on le voit qu'il quitte, on ne prend pas aucune question, alors qu'on attendait de nombreuses questions sur ce qui se passe à Minneapolis. Alors, il ne répond pas, il est tout simplement retourné. Après avoir donc dénoncé vivement la Chine, disant de un qu'il vole les États-Unis depuis des décennies, les accuse d'espionnage, de violation des traités avec Hong Kong, qui s'en sort trop facilement au fil des années, blâme les précédents gouvernements, blâme la Chine pour le virus d'avoir causé 100 000 morts aux États-Unis, même il parlait d'1 million de morts dans le monde, c'est pas le chiffre qu'on a, là, on est à 350 000, mais c'est le chiffre qu'a donné le président, l'appelant toujours le virus de Wuhan. Alors il annonce de un stopper les fonds à l'OMS et couper les
Ça, il avait déjà menacé. Mais là, il le fait.
et coupent complètement les relations avec l'OMS, qu'ils accusent d'être pro-Chine, puisque la Chine n'investit que 40 millions, alors que les États-Unis en financent pour 450 millions. Les fonds qui iront dans d'autres œuvres, disons, internationales, promet des actions également au niveau économique, alors veut se battre contre les entreprises chinoises déloyales sur les marchés américains. Alors, lançait plusieurs fronts là, contre la Chine. Alors, on verra la réaction. J'essaie de voir sur les marchés si ça semblait stresser les investisseurs. Là, pour l'instant, le Dow Jones qui était dans le rouge, mais à peu près comme il l'était depuis le début de la journée. Alors, pour l'instant, ça semble assez stable. Mais il faudra voir la réponse chinoise qui souvent répond également avec un ton de fermeture aussi.
On va s'arrêter. On va revenir dans un instant. On va vous parler, entre autres, plus tard dans cette émission de la façon dont l'Alberta est en train de penser la sortie de confinement. Jason Kenney, là, qui est assez audacieux, va peut-être même devenir un modèle ou encore va se mettre les pieds dans les plats, mais disons qu'il est assez audacieux.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Alors, confirmation aujourd'hui, ça avait déjà coulé, mais de la reprise du processus qui mène au choix du chef du Parti québécois. La course va reprendre officiellement le 5 juin, dévoilement d'un nouveau chef le 9 octobre prochain. Donc, la période de mise en candidature qui reprend va s'échelonner maintenant jusqu'au 26 juin, puis les autres étapes ensuite qui vont conduire au choix du chef. On parle de débats virtuels qui auront lieu le fin août et durant le mois de septembre pour voir comment ça reprend. Guy Nantel, qui était un des candidats à la course avant que tout ça s'arrête, bonjour.
Allô.
Est-ce que vous reprenez la course? Là? Parce que là, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que chacun des quatre candidats va rester dans la nouvelle course?
Oui, ben là, on est plus dans la mise en candidature, donc déterminer qui sera officiellement dans la course, parce que en ce moment, on est six quand même. Mais pour se qualifier, il faut ramasser 2000 signatures et aussi ramasser des dons. Et là, ben ça, c'était des termes qui avaient été établis avant la COVID et ça n'a pas changé de ce côté-là.
Mais vous, étiez-vous proche du compte quand tout s'est arrêté à la mi-mars?
Pas tant, parce que en fait, on s'est fait prendre un peu par le... on a eu un coup du mauvais sort, c'est que t'as quand même l'expérience, Mario. Les dons et les signatures et tout ça, ça rentre à partir du moment où tu fais ton lancement de campagne. Mon lancement était prévu le 18 mars et on sait ce qui est arrivé à partir du 12 mars. Il n'y avait plus aucun rassemblement qui était permis, tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu de dévoilement de la plateforme, il n'y a pas eu de rassemblement public, et puis ça fait en sorte que moi, de mon côté, il y a du retard de ce côté-là, parce que forcément, il y en avait, tu sais, il y a des gens dans la course qui, eux autres, étaient dans la course depuis quand même 4, 5, 6 mois avant moi, là, tu sais.
Mais est-ce que ça tue le momentum? Est-ce que c'est au point d'opérer une remise en question si on n'a pas l'argent, pas les signatures, puis tout à coup, tout s'arrête, puis on essaie de repartir un moteur qui est froid, là?
Ben, c'est-à-dire, pour moi, en ce qui me concerne, pas du tout. Moi, j'ai encore autant d'enthousiasme, même plus, parce que pendant toutes ces semaines-là, tu sais, j'ai réfléchi à mon affaire, puis j'ai approfondi mes connaissances, tout ça, sauf que, tu sais, c'est plus difficile de ramasser une pièce aujourd'hui qu'au mois de janvier, là. Alors, comment ça va se passer? Comment les gens vont embarquer ou pas dans cette course-là? Il faut pas oublier tout l'aspect du confinement, des confinements, l'été qui arrive. Donc, les gens qui ont le goût d'être dehors s'intéressent peut-être moins à une course politique. Donc, tu sais, c'est vraiment une nouveauté. Déjà, faire une course pour moi, c'est une nouveauté, mais dans ce cadre-là, ça en est encore une davantage.
Pourquoi parce qu'on dit le contexte politique a changé. Pourquoi le PQ dans le nouveau contexte? Pourquoi le PQ dans l'après-crise? On a l'impression, certains vont dire, ben là, le Canada, entre provinces, on s'est prêté, on s'est donné des masques quand un était mal pris. L'Alberta nous a donné du matériel. M. Trudeau, je suis convaincu que M. Trudeau dirait, on n'a jamais autant vu l'appartenance à une fédération, combien c'était payant, là.
Oui, on n'a jamais autant vu aussi comment c'était difficile de contrôler nos frontières, comment... Tu sais, je veux dire, si tu as besoin de masques, si tu as besoin d'échanges commerciaux, puis tout ça, ça se fait entre nations de toute façon. Je veux dire ça, il y a moyen de faire des ententes. L'idée d'être souverain, c'est certainement pas de fermer la porte au Canada puis de dire... on veut plus rien savoir de vous autres, mais c'est de faire en sorte qu'on est capable de passer nos lois, tu sais, de décider pour nous, par nous-mêmes, et entre autres d'être autosuffisant du mieux qu'on peut. Tu sais, la réponse de l'armée canadienne hier, c'est un bon exemple à ça. C'est-à-dire que ici, on paye pour 20-22% de l'armée canadienne, on a les effectifs aussi, mais il faut demander la permission à un autre gouvernement pour avoir l'aide qui devrait nous revenir de facto, et que si on était un État souverain, on n'aurait pas de demande à faire comme si c'était une demande à un pays étranger, par exemple. Mm-hmm.
Il faut, on dit faut comme recréer un intérêt là, pour la course. Vous avez un double défi, recréer un intérêt pour la course au PQ dans laquelle vous êtes, parce que là, le monde a la tête ailleurs, et recréer un intérêt pour votre candidature à l'intérieur de la course au PQ. C'est quoi le feu d'artifice? C'est quoi la bougie d'allumage là, pour que les gens disent « Oh, OK, là, Nantel, c'est-tu ça, la gestion des frontières, qui est le dernier choc que les gens ont eu il y a quelques semaines? Est-ce que c'est ça le point de démarrage? »
Mais c'est-à-dire que, tu sais, la COVID, là, je comprends que c'est bien important dans la vie du monde, puis que il faut pas se le cacher, là, je veux dire, la société a changé. Il y a des choses à clarifier au niveau des CLSC, de la santé, de l'économie, parce qu'il va falloir restructurer ça aussi. Mais ça demeure quand même une parenthèse là, dans notre vie. Les questions de souveraineté, puis les questions d'organisation, de société vont demeurer quand même et la vie va continuer. Et ce que je veux dire, c'est que dans un an ou deux, à moins qu'il y ait encore quelque chose de pire qui arrive avec un autre virus ou que la COVID, on n'en vienne pas à bout, ben on aura quand même des défis à relever. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que je comprends qu'on ne parle que de ça là, depuis 3 mois, mais business as usual, comme disent les Chinois, là, c'est-à-dire quand tu rentres en politique, t'as d'autres dossiers à régler, je veux dire, en éducation, entre autres, puis bon, enfin, en plein d'autres dossiers. Mais, donc, c'est pas, pour répondre à ta question, c'est pas un feu d'artifice, moi, que je veux faire. C'est vraiment de rentrer en profondeur dans les sujets les uns après les autres. Comment on va le faire avec la crise, avec le fait qu'il n'y a pas de rassemblement public? Ça, c'est plus compliqué pour créer l'effervescence.
Ouais. Comment vous qualifieriez la gestion de la crise par François Legault et son gouvernement?
Moi, j'ai fait des capsules quotidiennes pendant 6 semaines, donc je n'ai fait une quarantaine, là, je vous dirais. Puis à plusieurs reprises, j'ai félicité l'organisation de François Legault, du docteur Arruda, tout ça. Ceci dit, ils ont eu quand même, ils ont eu la partie facile dans la mesure où c'était tout à fait sain et normal pour une société de pas rentrer dans la mesquinerie puis dans la partisanerie et de critiquer chacune des décisions parce qu'il n'y a aucun décideur dans le monde actuellement qui est capable de trouver les bonnes réponses à chaque défi qui se présentent. Donc, ils n'ont pas fait ni mieux ni pire, mais ils ont quand même commis des erreurs, entre autres en amont, selon moi, entre autres au fait que, tu sais, on s'en souvient que début janvier, là, autour du 5-10 janvier, le docteur Arruda disait « Ah, ça, là, vous allez voir, ça n'arrivera pas chez nous, la grippe, ça va être bien pire cette année. » François Legault répétait la même chose. Quand la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario...
Il achetait des masques.
Il
les mettait dans des entrepôts.
Tout ça, ben, au Québec, on disait « Non, on veut rien savoir de ça. » Et les premières commandes ont été passées le 19 février. Et ça, c'est quoi? C'est une semaine avant les premiers cas qui ont été déclarés. Donc, au niveau de l'autosuffisance, comme je parlais tantôt, il n'y a absolument rien qui a été fait. Au niveau de la protection des CHSLD, on savait très bien depuis plusieurs mois que ça s'attaquait aux personnes âgées. Il n'y a absolument rien qui a été fait. Peu ou pas de demandes très concrètes et très fermes pour le contrôle des frontières, entre autres au niveau du chemin Roxham. Il y avait des avions qui arrivaient de Chine, puis on faisait comme si de rien n'était. Donc, il y a quand même plusieurs choses sur lesquelles il va falloir revenir. Tu sais, quand il y avait la semaine de congé pour les élèves, les étudiants, mais les gens partaient en voyage comme si de rien n'était, alors qu'on savait très bien que ça se passait ailleurs, là, qu'il y avait vraiment des problèmes.
Tout ça, c'est fédéral. La gestion par le fédéral, là, comment vous qualifieriez la gestion
non, c'est pas que fédéral. C'est-à-dire qu'au niveau de notre santé publique puis de notre gouvernement, il y aurait très bien pu y avoir des avertissements sérieux de dire on vous demande de ne pas quitter le Québec et, entre autres, de s'assurer que les gens qui rentraient dans les CHSLD revenaient pas de voyage parce que forcément, c'est un jeune qui s'en va avec sa famille, il revient du voyage, va voir ses grands-parents dans les CHSLD. Ben, rien n'a été fait là-dessus.
Donc, un certain laxisme.
Ben, en tout cas, certainement plus une certaine désorganisation qui peut se comprendre dans la mesure où c'était la première fois que quelque chose d'aussi grand arrivait chez nous. Hein? Les virus puis les bactéries, c'est tout le temps en Asie puis en Afrique dans la tête du monde. Puis on a toujours cette impression-là d'invincibilité puis on vit dans une société très aseptisée, mais il fallait quand même voir que ça rentrait de plus en plus dans les pays occidentaux et qu'il fallait se prémunir par rapport à ça.
Pour la suite des choses, vous vous placeriez dans quel camp? Là? Je l'ai défini dans mes mots, là, mais Jason Kenney qui dit là, faut plus retourner en confinement, il faut protéger les populations vulnérables, mais recommencer à vivre le plus normalement possible, versus d'autres qui sont très, très prudents, qui disent faut déconfiner très lentement, faut se préparer à refaire d'autres confinements au besoin s'il y a une deuxième vague. Vous êtes dans le camp des très prudents ou des plus agressifs?
Je pense que il va falloir faire face à une réalité éventuellement, c'est que un vaccin, c'est le Dr Weiss qui disait que les chances qu'il y ait un vaccin d'ici 12 mois sont de l'ordre du miracle. Hein? Moi, je reprends sa phrase, que c'est quelque chose qui est quasiment impossible et que même si ça arrive, on parle d'un an. Alors forcément, le temps de commercialiser puis que les gens l'aient et tout ça, on peut penser que dans le meilleur des scénarios, on n'aura rien avant un an ou deux et peut-être plus longtemps parce qu'il y a plein de virus.
Donc, il faut recommencer à vivre?
Il faut recommencer à vivre, mais la vie pas comme avant, c'est-à-dire continuer tout le temps la prudence, la distanciation sociale et tout ça, et ça cause des grands problèmes dans différents secteurs, dont les spectacles, entre autres.
Je comprends. Mais donc, vous êtes plus du côté de dire faut être un peu agressif, laisser les individus gérer eux-mêmes leur santé, leur risque, mais que l'ensemble de la société recommence à vivre.
Ben oui, mais il faut quand même qu'il y ait des réglementations.
Je comprends. Tout le monde est d'accord.
Non, mais c'est ça. Oui, bien, absolument.
Mais
c'est,
le confinement, dans sa fois, vous n'avez
même pas le choix.
Ouais, mais vous n'êtes pas un pro-confinement trop agressif. Vous êtes fou.
Non, c'est qu'on ne peut pas se confiner pendant 10 ans. Là. C'est ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est absolument techniquement impossible, qui serait une catastrophe, évidemment, pour l'économie dans laquelle on est déjà les deux pieds dedans. Là, on s'enligne quand même sur une chute de 5 % du PIB, sur un taux de chômage de 15 % qui est un record de tous les temps, sur une crise économique qui va peut-être durer pendant plusieurs années, une récession. Donc, on n'a pas le choix de recommencer à vivre un peu comme avant, mais en même temps, si on n'a pas cette conscience-là, puis qu'on a l'impression que le virus est vaincu, ben on va retomber dedans, c'est clair. Et ça se peut qu'il y ait d'autres virus aussi qui reviennent. Tu sais, c'est possible que dans 2 ans, il y ait un nouveau virus, parce qu'il y en a eu 7 dans les 20 dernières années, toujours en Asie ou en Afrique, mais quand même, et en Amérique du Sud. Mais c'est des choses qui arrivent de plus en plus parce qu'on voyage de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'humains sur la Terre et il y a de plus en plus de proximité avec les animaux. Et bon, tu sais, alors, il faudra faire en sorte que c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité maintenant.
Guy Nantel, vous le savez peut-être pas, ça me tombe devant les yeux pendant qu'on se parle, mais le caricaturiste Y vient de vous inclure dans une de ses caricatures. Je viens de vous intriguer, hein?
Ah ben sûr, c'est sûr. J'ai toujours hâte de voir ce qu'on dit de moi dans les médias.
Merci d'avoir été là. Allez voir la caricature, puis bonne reprise de la campagne. Salut.
Parfait, merci
beaucoup. Guy Nantel, candidat à la direction du PQ.
Oui, j'ai vu la caricature.
Tu l'as vu toi aussi?
Qui concernait un certain Martin Matt.
Oui, qui se fait lancer des tomates. Et Guy Nantel qui dit, au moment où il se fait lancer des tomates, tiens, t'es prêt à faire de la politique.
Hein? C'est bien passé.
Entre humoristes. On va aller à la pause dans un instant. Anaïs est là avec la culture.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le retour de Mario Dumont.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1877-827-2346.
Culture et société.
Culture et société, la culture est malade, la société est malade.
Ben non, ça va bien, Mario.
Ah, j'étais pas bien parti pour un vendredi. Lady Gaga qui a une nouvelle...
C'est bien triste, il fait gros soleil, il fait beau. Allons-y dans le positif. Et ben oui, Lady Gaga qui nous...
Ça, c'est positif.
Ça, c'est positif. On l'attendait depuis longtemps, cet album qui a été repoussé à quelques reprises en raison de la COVID. Et là, ça a été officiellement lancé hier à minuit. 6e album studio. Son dernier album a été Joanne, beaucoup plus country. Là, je vous le dis, là, c'est un franc... plongeons directement dans l'électropop. J'avais l'impression lorsque à ma première écoute d'écouter Dance Mix 95.
Ok. Oh, ok.
Ouais, ça donne le ton pour l'été. Il faut porter du fluo quand on écoute ça avec des vêtements à la style aérobie.
Donc c'est dommage pour elle que les clubs soient fermés à la grandeur du monde.
Ah, écoute, cet été,
ça aurait roulé
et pas à peu près. Donc là, je vais faire entendre trois chansons. La première, qui selon moi sera la prochaine qui va jouer à la radio, parce qu'on en a entendu deux, Stupid Love et Rain on Me avec Ariana Grande. Et là, c'est Sour Candy. You want a real taste? At least I'm not a fake. Dum dum, unwrap me.
Dum dum, unwrap me. I'll show you what's me. Close your eyes. C'est vraiment le son de
il est 3 heures,
c'est ça, c'est vraiment il y a 20 ans là.
Ah oui, oui. Boum, boum, boum. Ouais. Mais c'est bon, donc ça c'est la première chanson. La seconde, vous pouvez entendre Replay maintenant. Là.
Mais
oui, vraiment,
c'est pas la plus grande inspiration de son côté pour les albums. Là,
non, mais c'est ça. Puis à certains moments, on retrouve quand même Lady Gaga qui a un grain de voix particulier. Et à d'autres moments, là, on pourrait me dire, ça, c'est la nouvelle de Britney Spears. J'avais l'impression d'écouter du Madonna. Je veux dire, en soi, ça fonctionne.
Mais moi, je trouve que ça sonne comme du Madonna là, des années 90.
Ben
vrai?
Oui. Écoute, on serait là, dans le sud, là, dans une piscine, là, les fond parties. C'est-tu comme ça que ça s'appelle, avec les gros ballons?
À deux mètres des autres. Là, puis...
dans un autre monde avant.
Oui, à l'aquaforme.
À l'aquaforme, c'est ça. C'est de la musique comme ça. Et là, la dernière que je vais vous faire entendre, elle a une relation très proche d'Elton John. En fait, c'est la marraine de son fils, Zachary. Et pour une des rares fois, on est vraiment loin de Rocketman et tout ça, là, je vous le dis. Alors, voici la chanson Sin From Above. Alors, c'est Lady Gaga et Elton John. Là. Qu'en pensez-vous?
J'aime moins.
Je te dirais que c'est pas mon coup de cœur.
Non.
Cette chanson-là?
C'est moins de.
Je trouvais que c'était la meilleure des trois.
Ah, oh, ouais.
Elle me semblait un petit peu plus inspirée que juste du boum-boum.
L'erreur est humaine.
Mais je vais pas falloir. Mais ça va me prendre
le gars, il est tout seul contre deux.
Non, mais je te dis pas que je tripais, là. Juste que c'était ma préférée des trois.
Chromatica, 16 chansons.
Et on est revenu un peu en arrière dans le son, mais là, on va revenir encore plus en arrière avec Ça va bien.
On reste dans les mêmes années, là, justement, au niveau du son, là.
Ça, c'est peut-être plus 88, là.
Ça va bien?
Ça va bien.
Ben non, c'est 93, Vincent.
Ben non, c'est 5 ans.
Ben 5 ans, c'est 5 ans?
Oui, parfait.
Mais non, mais c'est parce que moi, 88, qu'est-ce que je jouais en 88, Mario? Moi, j'avais un an. Là,
que je me suis pas le note.
Mais il me semble que ça va bien. 88,
exemple. Ah, le note, c'est
84, 5. Ah, oh, ben là, je dis plus rien, là.
On t'aime.
Si vous ne donnez pas 5 ans de lousse, là, je vais me perdre.
À 5 ans près.
Oui, parfait.
Kathleen nous a présenté il y a quelques années, ça va bien. Là. Évidemment, en lien avec la COVID, ça va bien aller. Il fallait s'y attendre à un moment ou à un autre que cette chanson.
Numéro 1, 1988, là.
Ouais.
Faith, de George Michael.
Oh, OK, ben quand même.
Tu vois?
On ne l'avait pas vu.
Numéro 1 de l'année, selon Billboard.
OK, excellent. Rien de moins. Donc, c'est une source sûre. C'était
là, je sais pas.
Là, on lui demandait depuis un certain temps de reprendre la chanson. Elle n'était pas certaine qu'elle le voulait. Et dans la vidéo qui a été diffusée, elle explique au début justement.
Pour refaire une nouvelle version de Ça va bien. Mais je dois vous avouer qu'au début, j'étais très réticente à la refaire parce que je suis très consciente que pour certaines personnes, ça va pas bien du tout et c'est très difficile ce que l'on vit. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai voulu la faire, mais pas seule. Alors,
pas seule. Donc, elle s'est entourée d'une vingtaine d'artistes. Kathleen, qui est identique. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, tellement
comme pas l'oublier de vieillir, hein?
Avec ses longs, longs cheveux blonds. Et je veux dire, là, en 2020, elle a encore la même, là.
Mais elle a pas les genres de boudins, c'est pas ça?
Elle avait
des
boudins?
Cheveux.
Comme des tresses.
Ouais,
des
genre tresses? De tresses.
Ouais, ouais, ouais. Elle a eu ça, oui.
Elle a eu ça? Ouais. Je m'en souviens pas. Moi, je me souviens de ses longs cheveux blonds. Okay. Mais là, je vous confirme qu'elle n'a pas de tresse dans la vidéo, mais elle a des cheveux blonds avec une vingtaine d'artistes, Marc Hervieux, Christian-Marc Gendron, Marie-Denise Pelletier, Nathalie Simard. Et je vous fais entendre la nouvelle version 2.0 de Ça va bien. Alors, vous avez entendu le « Ça va bien », Nalé la joue dans cette nouvelle version.
J'accueille mieux la chanson en ayant entendu son commentaire précédent qui dit qu'elle était un peu mal à l'aise. Elle l'a fait de suppression, qu'elle était un peu mal à l'aise de la faire parce que ça va pas vraiment bien.
Mais c'est ça, ça va
bien. C'est une lucidité qui me réconcilie avec le fait qu'on se la chante pour se faire du bien, mais on se fait pas d'accroix.
On est conscient.
J'aime mieux
que,
ça.
Voilà, c'est ça.
Parce que moi, le « Ça va bien » et les arcs-en-ciel, je commence à être...
Ah, ouais, tant que ça.
Oui, mais ça va mieux. Ça pourrait être « Ça va mieux ».
Ça va mieux?
Mais ça va mieux.
Ça va mieux, oui. Ou que
c'est
ça va mieux, là.
Ça pourrait être ça.
Ça va mieux.
Ouais. Ouais, moi, c'est sûr que s'il faut que quelqu'un nous compose un « Ça devait bien aller », là.
Oui.
Mais oui, mais Mario, t'es quand même pessimiste. Non, ça va pas bien. Je suis pas en train de
Quand on a parti le slogan « Ça va bien, ça va bien, tu sais, ça va bien aller », tout ça, c'était l'espoir que le Québec allait s'en sortir bien, allait être dans un des endroits dans le monde qui a la, comme la Colombie-Britannique, ou tu sais, un des endroits qui a le moins de cas. Là. Je veux dire, là, on se retrouve avec Montréal dans le pire des villes du monde.
Oh, on l'a échappé,
c'est vrai,
là.
C'est vrai qu'on compte tous les cas. Ça, je suis honnête, on compte tous les cas. Puis, à un moment donné, il y a des pays qui vont te rajouter des plus 20 000, plus 30 000. Ils vont faire le vrai décompte. Ils vont faire des rajouts débiles là, de nombre. Mais quand même. Mais c'est pas grave. Là, ça va mieux.
Bon,
ça va
c'est
mieux.
Ça.
Voilà.
Ouais, aujourd'hui, ça peut bien aller aussi.
Bon. Merci, Kathleen.
Merci, Kathleen.
Grâce à elle, ça va encore un peu mieux.
Et voilà. Qu'est-ce qu'on écoute, messieurs, en fin de semaine? Il y a plein de choses. Filthy Rich, moi, que je vais écouter. Donc, je ne peux pas vous en parler. Je ne l'ai pas écouté encore sur Jeffrey Epstein, qui est sorti il y a deux jours sur Netflix. Richard Martineau.
Madame Barrette, regardez pas mal de temps. C'est combien d'épisodes, je ne sais pas, au total?
Je ne sais même pas. Là, je vous dis ça, j'ai aucune feuille devant moi. C'est juste que je veux l'écouter.
Elle est outrée.
Puis, ben, c'est ça. C'est ce que Richard Martineau me disait ce matin. Il dit, c'est bon et c'est dégueulasse à la fois. Donc, c'est ce que vous pouvez écouter, mais peut-être pas avec les enfants samedi matin un café. Là, ça te gâche un peu une fin de semaine. Sinon, We Are One, festival...
Puis, juste pour finir sur... Comment c'est?
Filthy Rich.
Filthy Rich. C'est pas sûr que la reine, semble-t-il...
va aimer le reportage. Elle va pas le binge-watcher.
Selon Mme Barrette, la reine pourrait trouver ça rough.
Il y en a de... Plusieurs sont écorchés par ce film.
Mais la reine, c'est son fils.
C'est
pas la reine d'elle-même, elle a pas participé.
Non, mais...
peut-être dans certains complots, là.
Ça serait bien le bout, Mario.
Bon. Oui, excuse-moi. Continue.
Dire, ça va pas bien, là, honnêtement. OK, je vous parle de We Are One. En raison de la COVID, il y a plusieurs festivals du film qui ont dû être annulés, sauf la Mostra de Venise, hein, qui là devrait avoir lieu au mois de septembre prochain. Donc, il y a 21 festivals qui ont décidé de se regrouper. Et ça commence aujourd'hui jusqu'au 7 juin prochain sur YouTube. C'est gratuit à 100%. On nous propose une centaine de nouveaux contenus, surtout de l'ancien. Je vous dirais, il y a quelques premières mondiales, mais en général, ce sont, oui, des films qu'on a déjà vus, des longs-métrages, des courts-métrages, de la musique, des tables rondes. Donc, si vous avez envie de voir là, des entrevues, notamment avec Francis Ford Coppola ou encore Guillermo del Toro, vous allez faire un tour sur YouTube. Alors, c'est disponible jusqu'au 7 juin prochain. Donc ça, c'est ce que vous pouvez regarder ce week-end. Ce que vous pouvez écouter si, comme moi, vous faites de l'insomnie lorsqu'il fait chaud, parce que nous sommes en temps de canicule, j'ai pas encore l'air conditionné. Des fois, d'écouter une petite balado pour nous détendre.
Mais sur quelle plateforme?
Sur Cube Radio.
Oh!
Oh, je vous fais entendre ça détendu. Et là, c'est Scan corporel.
Fermant vos doigts, formez un point bien serré avec chacune de vos mains. Maintenant. Et serrez fort. Serrez. Serrez. Et respirez.
C'est comme ça pendant 17 minutes, je peux vous garantir.
C'est un nouveau balado sur Cube Radio, ça?
Oui, détendu. Et ce que
on dirait qu'elle nous parle direct dans le cerveau, dans la tête. On dirait,
je pense que c'est le but.
Non, mais oui. C'est ça le but, c'est ça. Puis là, il y a de la méditation, il y a des balades aussi. Donc là, on nous fait visiter les plaines d'Abraham. Donc on nous explique, là Vincent, là, tu marches dans la rue, à ta gauche, il y a telle chose. La statue au loin, cette statue bâtie, arrivée en 1900 au Québec. Donc là, il y a des visites également, notamment des plaines d'Abraham. Donc il y en a environ 6 présentement.
Là, l'année d'après, tu vas
vas à l'endroit, puis tu vas, il me semble.
Je connais ça, mais c'est bizarre, j'ai pas
du mal. Tu as vraiment l'air intelligent avec les gens que tu es. Hey, ça, je connais ça, cette statue-là.
Bon.
C'est un des deux. Mm. Et là, je vous rappelle que les cinéparcs aussi, hein, qui ouvrent, il y en a deux notamment qui ouvrent aujourd'hui à Offord. Là, je suis allée voir la programmation parce qu'on s'en jasait le week-end passé lorsqu'on a reçu que ça allait ouvrir. Bad Boy for Life ou encore le film En Avant, un film d'animation signé Pixar.
Et finalement, une petite nouvelle artistique judiciaire.
Ben oui, Harvey Weinstein qui connaît en fait 4 nouvelles plaintes d'agression sexuelle, de viol. Donc, dans les 4 femmes, une aurait été mineure à l'époque et les 4 femmes auraient été invitées dans un hôtel et là, finalement, elles auraient été obligées d'avoir des relations sexuelles avec Harvey Weinstein et son frère Bob aussi qui fait partie de cette plainte-là.
Ben là, pour le frère, c'est... Non, mais pour Harvey Weinstein, est-ce qu'on fait le procès? Parce que là, il est en prison.
Il est déjà en prison pour une 20aine d'années.
C'est ça, pour jusqu'aussi longtemps qu'il va vivre. Là, est-ce qu'on fait le procès par acquis de conscience? Je pense que oui, même si ça ne change rien au niveau incarcération, pas grand-chose. On va arrêter, on va aller à la pause. On va revenir en parlant de l'Alberta et des du côté assez agressif du déconfinement du premier ministre là-bas.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
Cube Radio. Autrement dit...
Alors, on est de retour. Un peu partout, les gens se demandent comment on reprend les activités. Évidemment, le modèle, ce que vous voyez au Québec, ça ressemble à ça à plein d'endroits. C'est-à-dire que des confinements ici, des confinements là, puis petit secteur par petit secteur, on reprend. Puis dans le cas du Québec, on coupe même le territoire. Mais au cours des derniers jours, il y a le premier ministre de l'Alberta qui va dans le déconfinement aussi, mais qui a tenu des propos... pour la suite des choses, qui dit là, le confinement, il faut que ce soit fini, on peut pas revenir à ça, même s'il y avait une deuxième vague, on peut pas préparer un autre confinement. Il faut vouloir approcher les choses autrement, protéger les clientèles vulnérables, mais continuer à vivre. Frédéric Boilier, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonjour, M. Boilier.
Bonjour.
Bon, comment la population réagit en Alberta? Est-ce que les gens étaient prêts à entendre ça ou avaient le goût d'entendre un message comme ça?
Moi, j'ai l'impression que les gens, oui, ont envie d'entendre un message de ce type-là, quoique les propos de Jason Kenney ont dérangé aussi parce qu'il a comme fait référence à la COVID en la comparant avec une simple grippe. Ça a dérangé. Mais sur le fait que l'économie albertaine a besoin de redémarrer, le fait que les activités ont besoin de reprendre, on sent une certaine, disons, impatience de la part de la population, surtout que la pandémie a quand même été bien maîtrisée en Alberta. Évidemment, on craint toujours peut-être qu'il y ait un retour, mais globalement, par exemple, dans une ville comme Edmonton, il y a pratiquement plus de cas actifs, une 50aine de cas actifs seulement. Donc, dans ce contexte-là, on sent qu'il y a une certaine effervescence là, pour reprendre les choses.
Ouais. Je notais, parce que j'ai suivi ça un peu cette semaine, il y a des leaders dans le monde, on pourrait nommer Trump le plus important et le premier à qui on pense, qui ont minimisé de toutes sortes de manières la COVID. Bon, là, qui parlent de reprise agressive, puis on ne sait pas trop si on doit prendre au sérieux leurs propos. Mais dans le cas de Jason Kenney, il peut pas être accusé de ça, là. Même, il y a tellement emmagasiné de matériel de protection qu'il nous en a donné au Québec. Donc, il fait partie quand même des leaders qui, pour la première vague, ont pris les choses au sérieux.
Oui, oui, absolument ça. Le système de santé albertain a très bien réagi à la pandémie. On remarquait que ça repose pas simplement sur la bonne gestion du gouvernement conservateur de Kenney, parce que, d'abord, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé au pouvoir et que ça fait suite à un processus de centralisation du système de santé qui avait créé pas mal de vagues à l'époque, qui avait créé pas mal de critiques, mais là, on s'aperçoit finalement que pour l'Alberta, ça a peut-être été bénéfique et que, précisément, on a pu acheter du matériel dès le mois de décembre, ce qui fait en sorte qu'on a pu, comme vous venez de le mentionner, même en envoyer du côté de l'Ontario et du côté du Québec. Donc, dans un premier temps, il est clair que Jason Kenney et son gouvernement ont pris les choses en main. Et là, maintenant, c'est ce qu'on voit, moi, là, c'est cette tendance-là à sortir peut-être un petit peu plus rapidement du confinement, quoique les écoles primaires et secondaires restent fermées jusqu'au mois de septembre.
C'est une décision qu'on peut penser qu'il regrette, lui et peut-être même d'autres dans l'Ouest canadien, de ne pas s'être gardé l'option de dire ben on ferme les écoles, on les ferme pour le temps qu'il faut, d'avoir déjà, parce qu'eux, là, déjà en mars, ils s'étaient commis à dire ben on remet ça en septembre, là, on met un X sur l'année scolaire. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qu'il regrette jusqu'à un certain point? Parce que, par exemple, ici au Québec, là, on n'a pas pu reprendre l'école à Montréal, mais dans le reste du Québec, l'école a repris. C'est pas parfait, mais ça marche. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu reprendre en Alberta, en Saskatchewan, où il y a eu peu de cas, au Manitoba? Est-ce qu'ils n'ont pas été un peu vite sur la gâchette?
Oui, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. D'un autre côté, quand le gouvernement a réitéré là, sa décision de ne pas ouvrir les écoles, on a senti que dans le milieu, il y avait une pression aussi pour que les écoles n'ouvrent pas. Donc, je pense que de ce côté-là, le gouvernement a quand même été à l'écoute du milieu scolaire qui ne semblait pas plus vraiment pressé là, pour une réouverture des écoles. Et surtout que le gouvernement, aussi, je pense, était peut-être plus à l'écoute du milieu scolaire parce qu'ils avaient plus de problèmes avec notamment les médecins sur le mode des rémunérations. Je pense qu'on a peut-être essayé de trouver un équilibre du côté des conservateurs unis à se dire, bon, ben, on va peut-être écouter davantage le milieu scolaire et peut-être essayer de passer la crise avec les médecins.
L'idée, parce que dans son propos, évidemment, il y a eu le confinement. L'Alberta fait une sortie de confinement, bon, peut-être un peu plus agressive que d'autres. Mais l'idée de ne plus revenir, de dire aux gens maintenant, on veut d'aucune façon, on veut plus revenir en confinement. Les jeunes ne semblent pas trop malades, en fait, de façon générale, là, des exceptions près. Disons, l'idée générale, il faut protéger seulement les plus vulnérables, puis trouver les façons que le reste de la population continue à vivre, même s'il y avait une deuxième vague. Est-ce que politiquement, il tiendrait le coup? C'est-à-dire que s'il arrivait vraiment une deuxième vague, puis que les soins intensifs se mettent à se remplir, ben, tu sais, dans le fond, est-ce qu'il serait pas obligé de marcher sur sa peinture, puis de reconfiner comme n'importe quel autre leader mal pris, là?
Oui, je pense qu'il sera obligé de le faire, surtout que la cote de popularité de Jason Kenney n'est pas vraiment bonne. En fait, c'est un des chefs politiques provinciaux dont la cote n'a pratiquement pas bougé depuis, en fait, le mois de décembre dernier. Donc, il est en bas du 50% et ça n'a pas bougé malgré que l'Alberta, comme je l'ai mentionné, bien passé jusqu'à maintenant la pandémie. Dans ce contexte-là, ça me laisse entendre qu'il serait probablement obligé de reculer, de revenir à un confinement ou à des mesures de confinement là, dans certains secteurs.
Professeur Boily, merci beaucoup d'avoir été là.
C'est moi qui
vous remercie. Au revoir, Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. On va faire une pause et comme à chaque vendredi, tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. Normand Lester va être là après la pause.
Mario Dumont.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
La politique, autrement dit.
Alors, Normand Lester nous fait le résumé de l'actualité de la semaine dans le monde. Bonjour, Normand.
Bonjour.
Alors, évidemment, la Chine, dont on craint un peu les représailles après que Meng Wanzhou ait perdu devant le tribunal canadien hier.
Oui, puis ça a eu des conséquences cet après-midi même. Trump, durant sa conférence de presse, a annoncé là qu'il retirait tout statut particulier au niveau commercial avec Hong Kong. Et donc, ça se fait, bien sûr, dans les suites de tout ça. Comme vous savez, Meng Wanzhou, eh bien, elle a été déboutée devant la Cour suprême de Colombie-Britannique qui a décidé qu'elle pouvait être extradée aux États-Unis pour répondre à des accusations de fraude, là, des accusations à laquelle elle fait face aux États-Unis, qui sont aussi un crime au Canada. Ouais.
Mais les Chinois croient pas du tout à... Tu sais, quand Justin Trudeau dit « Nous, on a un système de justice, puis les juges rendent leurs décisions, puis on respecte ça », les Chinois croient rien de ça.
Ben non, les Chinois, bien sûr, considèrent que le Canada est un des plus proches alliés des États-Unis et que donc on a collaboré avec ça. On a collaboré avec les États-Unis. Maintenant, il y a plusieurs experts qui s'attendent à des représailles chinoises contre le Canada. Mais d'après moi, la première cible des Chinois, ça va être malheureusement les deux Canadiens qui sont actuellement détenus en otage, disons-le, en Chine depuis décembre 2018 en représailles contre l'arrestation de Mme Meng, hein, et eux autres probablement qui vont en subir des conséquences. Mais la Chine va devoir faire attention au niveau des représailles économiques parce que le déficit commercial du Canada envers la Chine est estimé à 51 milliards de dollars en 2019, l'année passée. Donc, elle a probablement beaucoup plus à perdre avec le Canada en perturbant le commerce avec le Canada. Moi, je pense que ça risque de limiter donc les représailles de Pékin.
Parce qu'on achète beaucoup plus des Chinois qu'on leur vend là.
Mais oui, puis de toute façon, donc avec le coronavirus probablement. Que beaucoup de pays, dont le Canada, on va réorienter nos échanges économiques avec l'extérieur, puis on va essayer de produire localement beaucoup plus. Et ça risque de nuire aussi à la Chine. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, les Chinois vont hésiter là à prendre des mesures très dur contre la Chine, d'autant plus qu'ils sont empêtrés actuellement avec, bien sûr, la crise du coronavirus, et ils sont empêtrés aussi avec les troubles à Hong Kong. Et cet après-midi, comme je vous le disais, Trump a décidé d'abolir tout statut privilégié pour Hong Kong en disant, ben là, avant c'était un pays, deux systèmes, en parlant d'Hong Kong, il dit maintenant c'est un pays, un système, et pour une fois, je suis d'accord avec Trump. Maintenant, pour la Chine, c'est extrêmement embêtant parce que à travers le monde, là, il y a des dizaines de pays qui veulent une enquête et qui veulent prendre des mesures contre la Chine pour assurer justement le statut particulier de Hong Kong, mais le Parti communiste chinois, lui, a décidé que dorénavant, ces lois de la sécurité nationale s'appliquaient à Hong Kong, donc la liberté de manifester, la liberté d'expression à Hong Kong, en principe, ça ne va plus exister. Maintenant, est-ce que ça va arrêter les manifs dans cette ville-là? Ça me surprendrait, mais en tout cas, ça risque de perturber encore plus le climat en Chine, parce que, qu'est-ce que vous voulez, une partie significative du commerce international, des opérations financières de la Chine, ça passe par Hong Kong. Et si Hong Kong perd son statut particulier, ben ça va avoir des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie chinoise. Hong Kong, là, je veux dire, hein, c'est un pays qui a 7,5 millions d'habitants, puis assez curieusement aussi, il y a près de 300 000 Canadiens qui vivent à Hong Kong. C'est l'une des principales communautés canadiennes à l'étranger. Mais je vais préciser une chose, beaucoup de ces Canadiens-là de Hong Kong sont dans les faits nés à Hong Kong et n'ont vécu au Canada que le temps d'obtenir la citoyenneté canadienne. Et on peut penser justement que ces gens-là, essentiellement des membres de la bourgeoisie locale, vont peut-être vouloir immigrer à Vancouver pour de bon si vraiment là, la politique un pays, un système s'applique à Hong Kong.
Normand, les émeutes à Minneapolis, d'abord, double question, est-ce que ça risque de se calmer avec l'arrestation aujourd'hui, là, l'accusation du policier concerné, et est-ce qu'il y a un risque pour les États-Unis que ça s'envenime dans plusieurs autres villes du pays?
Moi, je pense que ça va s'envenimer parce que le policier aujourd'hui a simplement été accusé d'homicide involontaire. Alors que tout le monde a vu là, en ondes les vidéos épouvantables où manifestement, pendant 8 minutes, le policier a appliqué son genou sur le cou du gars, alors qu'il criait « j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe ». Moi, ça me semble être beaucoup plus. Puis les premières réactions aussi de la famille de la victime et puis des organisations noires, c'est qu'ils exigent que ce soit clairement une accusation de meurtre au premier degré. Et je pense, puis en plus de ça, comme tu le sais, Trump a envenimé la situation hier soir en envoyant un tweet où il a dit « Quand les émeutes commencent, les tirs commencent », il citait là, d'une certaine façon un policier raciste de la Floride durant les années 60 qui avait fait qui avait tenu les... des propos racistes.
Et quand tu dis les tirs commencent, le shooting en français, c'est quasiment pire que les tirs, c'est quasiment la fusillade, c'est quasiment une notion de tirer dans le tas, là.
Exactement. Mais là, moi, je pense, par exemple, ça c'est déjà... c'est en train de se propager à d'autres villes. Hein. Il y a déjà eu des troubles là, dans une dizaine de villes américaines. Et là, ça risque de prendre de l'ampleur. Et je rappelle qu'il y a eu, là, depuis une couple de décennies, des troubles épouvantables aux États-Unis lors de la mort de Martin Luther King en 1968. Il y a eu des émeutes qui ont fait plus de 50 morts, des milliers de blessés et qui ont causé pour des milliards de dollars de dégâts dans pratiquement toutes les grandes villes américaines, dont, bien sûr, Los Angeles, Denver, Kansas, en tout cas, une douzaine de villes. Puis il y a eu aussi, puis probablement tu t'en rappelles, les émeutes de Los Angeles en 1992, qui ont aussi causé une soixantaine de morts et des milliers de blessés. Est-ce qu'on s'en va vers une situation aussi grave? Ben pour l'instant, c'est difficile à évaluer, mais en tout cas, ce qui va se passer ce soir, ça risque d'être une bonne indication. Là.
Ouais.
Mais Trump a dit qu'il était prêt à faire intervenir l'armée à Minneapolis. Évidemment, il jette de l'huile sur le feu en faisant des déclarations semblables.
Hey Normand, merci beaucoup. Bonne semaine.
Bonne
Au revoir, Normand Lester et son résumé de l'actualité dans le monde. Et on va maintenant parler sport. On rejoint tout de suite Jean-Charles. Salut Jean-Charles.
Allô Mario, comment ça va?
Ça va très bien. Et là, on a un portrait plus précis du format, des dates, de ce qui s'en vient dans la Ligue nationale de hockey.
Oui, on s'est manqué de peu hier parce que l'information m'est parvenue après notre converse. Fait que pour le bénéfice de tout le monde, là, et peut-être un peu le tien aussi, confirmation, donc, l'Association des joueurs a dit à la Ligue nationale, essentiellement, Mario, pouvez-vous nous donner des dates précises? Parce que là, vous nous dites reprise possible dans la première quinzaine de juillet. Nous, on rentre quand? De Finlande, de Russie, tu comprends? Comment on organise nos flûtes? Alors là, la Ligue nationale a dit, écoutez-nous bien, le scénario idéal est le suivant. Ouverture des camps d'entraînement pour les 24 équipes qui vont prendre part aux séries éliminatoires le 10 juillet. Camp d'entraînement d'une durée de 3 semaines complètes, les 2 premières dans les 24 patelins concernés, la dernière dans les 2 villes qui vont accueillir le tournoi éliminatoire.
Là, ça serait des espèces de matchs, ça serait des matchs d'exhibition, là, des matchs préparatoires.
Ben, en fait, on amènerait les 24 équipes dans les 2 villes choisies pour la dernière semaine afin de leur permettre de jouer 2 matchs hors concours.
OK.
Mais tout ça, là, ça nous amène au 31 juillet. Début des séries, 1er août, avec la ronde de qualification et le tournoi à la ronde, 4 meilleures équipes des 2 associations. Et ça, c'est un 3-5. Ensuite, on joue les rondes 1 et 2, la ronde des 16 et ronde des 8, qui sont des rondes traditionnellement 4 de 7. Cette fois-là, on les jouerait 3-5. Ce qui fait que les équipes quittant leur patelin le 24 juillet et étant destinées à soulever la Coupe Stanley ou batailler pour la Coupe Stanley en grande finale, seraient éloignés de leur famille pour moins de 60 jours, donc moins de 2 mois, presque 2 mois, en fait, 57 jours. Et ça, c'est un argument qui a force de loi auprès des joueurs, là, parce que là, il y en a qui avaient peur d'être éloignés de leur famille pendant 3-4 mois. Là, il n'en est rien avec ce format-là. Fait que ça, c'est intéressant pour faire pencher la balance. passe. Maintenant, okay. Il reste encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts, évidemment.
Donc, la coupe serait donnée dans quelle semaine, mettons, à peu près, là, début d'octobre?
Avant le 30 septembre.
Avant le 30 septembre.
Oui, dans la première quinzaine d'octobre aurait lieu le repêchage universel.
Bon. Et Canadien a mis un nouveau joueur sous contrat?
Raphaël Harvey-Pinard. Intéressant, ça. Lui, sa carrière junior vient de prendre fin abruptement. Il a vécu un véritable conte de fées. Il a joué 3 ans avec les Huskies de Rouyn-Noranda et l'an dernier, il a soulevé la Coupe Memorial avec cette équipe. Ça fait presque 1 an, jour pour jour, de ça, Mario. 1 an et quelques jours. Et là, le petit gars qui est né et a grandi à Jonquière avait été échangé au Saguenayen de Chicoutimi. 78 points en 62 matchs avec l'équipe cette année. Choix de 7e ronde, le 201e au total par le Canadien l'an dernier. On lui a consenti un contrat d'1 an, un volet Ligue américaine avec le Rocket de Laval. Normalement, on n'écrit pas à personne là-dessus, mais moi, je suis content parce que c'est un kid qui a une bonne tête sur les épaules. C'est une très bonne personne, Raphaël Harvey-Pinard. Puis c'est un kid qui a toujours surmonté toutes les embûches. Puis il en a toujours donné plus que 100 cents dans la pièce à tous ceux qui ont investi sur lui. Alors, moi, je gage pas contre ce gars-là, surtout qu'il va passer dans les mains d'un très bon développeur, Joël Bouchard. Et parlant de développeur, Jude Brackett, tu te rappelles, je t'ai parlé de ça il y a 1 mois et demi, c'est confirmé, quitte les Canucks de Vancouver. Est-ce que ça signe la fin des émissions pour Trevor Timmons à Montréal? Je te rappelle qu'il est responsable des sélections de Brock Besser, Elias Pettersson et Quinn Hughes à Vancouver, tout ça en 5 ans seulement. Timmons ne peut pas dire mieux en 20 ans.
Bon. Il reste 1 minute pour parler d'Alexis Lafrenière.
Oh, my God!
Premier choix au repêchage.
Bon, Alexis Lafrenière, ça, c'est intéressant. Là, on vient de parler du repêchage qui aurait lieu début octobre. Il va jouer où, lui, le kid?
Mais ça va être un tirage au sort?
Est-ce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va reprendre ses activités? Au rythme où on déconfine, là, ça se peut qu'on joue au hockey junior au mois d'août, au mois de septembre. Là. Et si on joue au hockey junior, puis Lafrenière n'a toujours pas repêché, est-ce qu'il se rapporte, est-ce qu'il retourne à Rimouski faire un dernier tour de piste? Moi, je trouverais ça extraordinaire. Il y a peu de chances que ce scénario-là se produise, qu'on joue et qu'ils jouent avec eux. Mais sinon, ils vont faire quoi avant que la Ligue nationale ne reprenne ses activités en décembre ou en janvier?
OK, la Ligue nationale, non, mais là, tu viens de dire quelque chose d'important, je suis niaiseux, moi. La Ligue nationale là, qui va donner la coupe, mettons, le 30 septembre, ne reprendra pas avant décembre. Là.
C'est ça. Parce qu'ils souhaitent reprendre devant public complet partout dans tous ces buildings. Et là, il y a
ça. Tu veux dire que Lafrenière pourrait jouer son automne dans le junior. Eh bien, on va surveiller ça. Bonne fin de semaine. Merci, Jean-Charles.
Bon week-end.
Salut. Alors, Vincent, dans les choses qu'on a surveillées, M. Legault, qui est passé en point de presse tantôt.
Oui, effectivement, elle a été évidemment questionnée sur l'entrevue de la directrice régionale de la santé publique, Dr. Drouin, à Montréal. Et il explique que lui et même la mairesse de Montréal à qui il a parlé était plutôt surpris de cette demande de travailler à Montréal et que l'idée, là, on travaillait à essayer de rendre le système plus efficace. Alors, il a répondu à peu près ça. Alors qu'on apprenait tantôt que les salons de coiffure allait rouvrir le 15 juin à Montréal. Ça inclut salon de barbier, centre d'esthétique, service de manucure et pédicure, épilation, tatouage et perçage.
Pour plusieurs, ce sera la meilleure nouvelle de la semaine. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On est avec la gang de LCN dans un instant.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.